I always get questions during interviews that have a certain tone.
On m'interroge souvent, avec, toujours avec un ton un peu bizarre, sur la santé du jazz.
More like they assume that jazz is not doing very well.
Mon interlocuteur suppose que le jazz ne se porterait pas très bien.
I have to tell you that I've seen a lot of young people, young musicians, developing their talent.
Et les jeunes musiciens ont un talent, un niveau aujourd'hui extrêmement intéressant.
As their own music. Not just
et ils considèrent le jazz comme leur propre musique. Ils font quelque chose d'original. Ils ne jouent pas la musique de leur papa. Il y a un sens de la curiosité chez eux que j'adore. Il y a beaucoup d'authenticité, de sincérité aussi. Et ces gamins me montrent que le futur du jazz est plutôt en bonne voie.
Et
puis ce qu'ils font, ce n'est pas forcément les clichés qu'on a sur le jazz, du jazz traditionnel ou New Orleans.
C'est so inclusif.
En fait, le jazz, et notamment chez les jeunes, c'est une musique qui va chercher dans les autres formes musicales.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Pianiste et compositeur, Herbie Hancock a connu la célébrité en intégrant le quintet de Miles Davis au début des années 60. Par la suite, comme son ami et mentor, il ne se contentera jamais de reproduire le jazz de ses débuts, mais il ira toujours chercher le renouvellement du côté des musiques de son temps, le rock, la pop, l'électro, le funk et même le disco. Car comme il l'expliquait ici au micro de l'ami Alex Dutille sur France Musique en 2012, le jazz ne risque pas de vieillir, son éternelle jeunesse étant assurée par la curiosité féconde des jeunes musiciens qui le rallient au fil du temps. Comme Herbie Hancock, qui n'a cessé de l'inspirer, le pianiste Eric Lénini a su intégrer à la fois les nouveautés techniques et les influences musicales les plus diverses. Après avoir étudié la musique classique, c'est à New York qu'il part à 18 ans pour voir de près ses idoles au Blue Note, ce qui ne l'empêche pas d'aller également aux concerts de rap. Dans les années 90, il travaille avec le gratin du jazz français avant de se lancer enfin en leader avec son propre trio. Après trois albums plutôt électro consacrés à la voix, il nous revient en concert dans toute la France avec un nouvel album, Six Strings Under, un disque qui signe son retour à l'acoustique et au trio. Mais un trio insolite, piano, guitare et contrebasse, où cohabitent harmonieusement hommage aux grands anciens et influences actuelles. Bonsoir Eric Lénini.
Bonsoir.
Je me souviens qu'en 2011, vous faisiez la première partie d'Herbie Hancock.
À l'Olympia.
Eh oui, à l'Olympia, ouais. Avec Marcus Miller et Wayne Shorter. C'était un grand moment. Vous avez grandi en jazz, dans ce jazz dit classique, le jazz des anciens, du Blue Note. Et en même temps, toujours, vous avez choisi un peu quoi, des chemins de traverse.
Comme vous l'avez dit, Herbie, c'est un mentor et ça... C'est toujours très émouvant de l'entendre parler. Il parle d'authenticité et il a un discours vrai pour moi. Et ce que j'aime bien chez lui, c'est justement cette variété d'influences qu'on retrouve dans son parcours. Notamment, il a dit le quintet de Miles où il a fait son écolage, j'ai l'impression où il a appris à jouer la tradition, ce qu'on appelle la tradition du jazz, mais ça ne l'a pas empêché de travailler avec Bill Laswell, d'avoir fait Rockit, etc. Et ça a toujours été un exemple et ça m'a toujours inspiré. Donc du coup, j'ai toujours été tenté d'écouter autre chose que du jazz. Peut-être que ça vient aussi de mon enfance, le fait d'avoir grandi avec de la musique classique, mais en même temps, ma maman écoutait, elle adorait Earl Garner, mon papa écoutait Django Reinhardt, la funk, James Brown. Donc il y avait cette multiplicité de musique à la maison et je pense que ça a eu une influence directe sur mon parcours et sur mes choix musicaux.
Mais est-ce que du coup, Eric Lénini, vous avez un temps hésité? Quoi jouer? Dans quelle école, dans quelle maison vais-je me sentir le mieux? Alors, vous avez gardé des pieds un peu partout, mais au fond, pourquoi le jazz plutôt qu'autre chose?
J'ai l'impression que je suis une personne assez instinctive, et du coup, je me laisse un petit peu guider par l'instant, par le moment, parce que je vais découvrir, parce que je vais écouter. Et de là, une envie de travailler, de développer et du coup de composer, d'écrire de la musique. Je pense que la composition est un élément fondamental dans la maturité d'un musicien pour évoluer. Et du coup, je pense que j'ai jamais eu de plan de conduite ou de me dire tiens je vais d'abord faire ça puis je vais faire ceci. C'est vraiment mon parcours et j'ai envie de dire le hasard de la vie qui a guidé tous mes pas en musique.
Mais je m'attendais presque à entendre quelque chose que moi je pense, alors vous allez peut-être me dire que c'est pas vrai, que le jazz est au fond la musique de tous les... la chapelle, la maison de tous les musiciens. C'est-à-dire qu'au fond, on peut, dans le jazz, intégrer tout ce qu'on aime. La musique classique, le funk, l'électro. Alors que si on choisit une autre maison... Ben, on est obligé de rester dans la note dominante.
Mmh. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que vous soulevez un point fort dans le jazz, c'est que le jazz est une musique basée sur l'improvisation, sur le dialogue, mais j'ai pas l'impression, ou en tout cas c'est mieux de ne pas se mettre de limites d'esthétique. Le jazz, c'est pour ça que le jazz est une musique intéressante, c'est qu'il n'y a pas cette... certains musiciens l'ont, mais moi en tout cas je ne fais pas partie de cette famille de musiciens, mais ils sont assez rares, où l'esthétique et une direction musicale se dit ben non, le jazz ça devrait être avant les années 40, ah non, ce discours-là existe, mais j'ai l'impression que la majeure partie des musiciens, et en tout cas tous les gens... que moi j'ai écouté, on peut parler du discours de Miles Davis, on peut parler du discours de John Coltrane, c'est toujours des musiciens, des personnes qui prônent la diversité, qui prônent juste le simple fait d'avancer, de chercher, et donc avec un point de vue comme celui-là, j'ai l'impression que c'est très très difficile de stagner dans un style. Et le jazz, pour ça, est une musique qui véhicule, je trouve, énormément d'ouverture musicale. Et donc, ce que vous dites, pour moi, est très très juste.
Alors, Eric Lénini, vos trois derniers albums précédents, c'était autour de la voix, c'était très électro. Vous jouiez d'ailleurs du Fender Rhodes. Là, retour au standard plus classique. On va écouter, pour en parler ensuite avec vous, une première plage de votre album, c'est une reprise de Stompin' à de Savoy. Eric Lénini, cet hommage à un jazz des anciens, est-ce que c'est lié aussi, j'allais dire à votre âge, qui est une mauvaise question, absolument. Est-ce que vous, tout d'un coup, après avoir joué de tout, intégré de tout, est-ce que l'âge venant, parce que vous êtes encore tout jeune, mais moins, dix ans moins, Eric Lénini, est-ce qu'il y avait cette envie de revenir dans cette chaleur, ce côté douillet, ce plaisir?
Il y avait cette envie de rejouer du piano, ça c'est certain. C'est l'instrument de ma vie, en fait. J'en joue depuis que j'ai 6 ans ou 7 ans. Le piano a vraiment, pour moi, une âme particulière, un son. Et le fait de ne plus en jouer, en tout cas de jouer presque exclusivement du Rhodes, commençait vraiment à me manquer, simplement. Et c'est très très important d'avoir ce rapport étroit, je dirais, avec l'instrument qu'on joue. C'est pas, j'ai vraiment eu envie de retravailler vraiment l'instrument, donc ça a été une préparation, de repratiquer de longues heures, etc. Ce que je ne faisais plus, pour revenir à ce format acoustique. Vous l'avez dit, c'est un hommage aux anciens. Je pense que c'est très important d'avoir un ancrage pour moi dans la tradition, mais en même temps de pouvoir s'approprier cette tradition pour essayer, et ce que j'entendais au début de l'émission, Herbie parlait d'authenticité, pour essayer de voilà d'amener une vision, une écoute, une manière de jouer qui est la vôtre finalement.
Alors, retour au piano pour vous, Eric Lénini, retour au trio, le trio classique pour les amateurs de jazz, sauf que votre trio, vous remplacez la batterie par la contrebasse, celle de Thomas Bramery, votre vieux complice, donc c'est quand même aussi quelque chose d'un peu nouveau. Avant d'en parler avec vous, on va écouter la voix de Thomas Bramery, on va pas s'en priver, ouais, il était d'ailleurs dans l'Humeur Vagabonde en 2014, grâce à Martine Abad.
La contrebasse, c'est un peu le socle.
Oui, oui, on peut dire ça. C'est-à-dire que c'est un peu le cas dans toutes les musiques depuis toujours. Le grave, la basse, donc la contrebasse pour le jazz ou la basse électrique dans tous les autres styles musicaux populaires, on va dire. Il y a un double rôle de fondation qui est un rôle harmonique et qui est un rôle rythmique. C'est-à-dire qu'effectivement, la plupart du temps, on demande à la contrebasse, pour ce qui est du jazz, un trio, rythmiquement de jouer sur le temps. Boum. Donc, c'est-à-dire de jouer chaque noir, c'est-à-dire chaque temps de la mesure. Donc, on joue sur le temps. Nous, on n'est pas supposé faire les malins et jouer des contretemps. Je veux dire, pour simplifier, on joue sur le temps. Les autres, y compris le batteur, se permettent de jouer ce qu'ils veulent, par contre, rythmiquement. La contrebasse est supposée jouer l'assise rythmique et, évidemment, l'assise harmonique. Si on joue un accord de sol, la première note qu'on attend de nous, c'est un sol. Voilà. C'est un instrument qui est volumineux, mais qui est plein de vide, en fait, qui est plein d'air. Donc, il y a effectivement de l'air. Je veux dire, ce sont des instruments avec beaucoup d'air. Parce que dans la musique aussi, on est tous très conscients de l'importance du silence. Donc, on pourrait faire un peu le rapprochement du silence dans la musique. Évidemment, on joue des notes, mais on essaie de... Ce qui fait, évidemment, ressortir chaque note, c'est le silence qui est autour.
Eric Lenny, c'est joli ce qu'il dit, Thomas Bramery. Hein, c'est le silence et les notes qu'il y a autour. C'est formidable.
Tout à son image.
Alors, ouais. Du coup, dans votre trio, quel est le rôle de la contrebasse?
Alors, je trouve que vous avez une grande sensibilité musicale parce que vous avez dit la contrebasse remplace la batterie. Et c'est tout à fait... On a souvent envie de dire « Ah, mais tiens, c'est la guitare », parce que la guitare peut aussi avoir un aspect plus rythmique. Mais dans la composition et dans la recherche que j'ai eue par rapport à ce projet, par rapport à Six Rings Under, c'était de... Connaissant la personnalité musicale de Thomas, je savais que c'était l'âme du groupe, parce que souvent je dis que moi la batterie est l'âme d'un groupe. Vous choisissez un batteur pour donner une dimension, une esthétique, une direction à un groupe, et c'est un choix qui est très très important. Et comme il n'y avait pas de batterie, c'était là le nouveau projet. Je savais qu'avec Thomas, j'allais trouver cette force rythmique, et car bon, c'est évidemment un musicien exceptionnel, mais on l'a entendu et je trouve qu'il a un concept extrêmement intéressant musical. Il est à l'écoute, la manière dont il perçoit, dont il rend la musique, dont il renvoie la musique, et pour moi exceptionnel et essentiel. Et je suis un fidèle, moi j'aime bien de travailler avec des musiciens qui me donnent envie de composer, qui me donnent envie de jouer. Et Thomas, évidemment, en fait partie.
Alors, c'est un trio, donc on a parlé de la contrebasse de Thomas Bramery. Il y a aussi la place de la guitare, mais dans cet album, Six Strings Under, Eric Lénini, il y a un endroit où il y a un quator. Thank you. Cette plage s'appelle Boda Boda. Il y a donc la guitare de Rocky Gresset qui vous accompagne tout au long de votre nouvel album, Eric Lénini. Et il y a cette deuxième guitare que vous avez voulu sur cette plage précisément, c'est celle de Hugo Lippi. Alors, ils sont assez différents, Rocky Gresset. Rocky Gresset, c'est un autodidacte, il a appris d'oreille. Il est très, très influencé par ce jazz manouche que vous avez tété tout enfant. Et alors que Hugo Lippi, lui, il vient d'un apprentissage beaucoup plus classique. Pourquoi vous avez voulu un quatuor dans votre album consacré au trio et précisément ces deux guitaristes si différents? Qu'est-ce qu'ils apportent l'un et l'autre?
Le choix des guitaristes reflète complètement ma personnalité. C'est que je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, que j'étais quelqu'un de très instinctif, mais en même temps, j'ai une certaine réflexion, une manière d'intellectualiser la musique. Et je trouve que Hugo Lippi, par exemple, a cette finesse, a cette approche de la musique, de l'harmonie. C'est évidemment un grand guitariste, un virtuose, mais il a des choix d'harmonie, d'accompagnement que je trouve vraiment magnifique. Et c'est vrai qu'en l'écoutant, je me suis aussi retrouvé dans un certain parcours musical, dans des questions que je me pose. Et le fait d'avoir choisi Rocky, c'est que je me retrouve dans cette manière instinctive de jouer la musique. C'est assez extraordinaire. Rocky ne sait absolument pas ce qu'est un accord, un do majeur, enfin, il n'y a aucune différence. Par contre, dès que vous jouez un accord, il va vous le jouer dans la seconde.
Eric Lénini, au fil de ces plages que l'on entend, moi je me demandais, quelle est votre place? À quel moment vous êtes vraiment leader? À quel moment vous disparaissez derrière vos compagnons? Comment est-ce que cet équilibre si subtil, et qu'on entend d'ailleurs des moments où la guitare est plus devant, on entend la contrebasse, on vous entend vous d'abord, comment est-ce que cet équilibre-là se réalise? Est-ce que c'est au fil des prises? Est-ce que c'est décidé d'avance? Ou est-ce que, au contraire, c'est tout d'un coup l'impro prend le dessus et vous laissez les choses se faire?
L'impro, je dirais, prend toujours le dessus. C'est-à-dire que le jazz et la musique en général, c'est l'écoute, c'est ce qui se passe à l'instant, le moment, comment ce que les musiciens jouent. Ça, en tout cas, dans le groupe, ça a une influence directe, ça c'est certain. C'est aussi, je pense, mon parcours. J'ai produit beaucoup de disques, j'ai travaillé avec énormément de chanteurs, donc mélodie, accompagnement. Je me rappelle d'avoir évidemment collaboré avec Claude Nougaro, qui avait toujours envie d'entendre la bonne note, la réponse aux mots. Et il m'a beaucoup aidé à construire l'accompagnement, en fait. Dans ma personnalité, j'ai l'impression que je suis autant soliste qu'accompagnateur. Du coup, j'ai toujours une écoute très précise sur ce que jouent les autres musiciens. Presque encore plus que ce que je vais jouer moi. Parce que c'est ce qui va me permettre de répondre, de jouer. Et c'est un équilibre assez subtil. Mais c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Du coup, je pense qu'il faut pas trop préparer non plus. Il faut avoir des canevas, il faut avoir une direction musicale, un décor. Puis, une fois qu'on joue, il faut pouvoir aussi oublier. Et ça, c'est l'instinct, se faire confiance à son oreille, à sa culture.
On va écouter une plage qui, moi, est très chère pour moi dans ce disque. Je l'ai trouvée absolument splendide. C'est un hommage à un musicien et à un chanteur, un compositeur que vous avez adoré, comme nous tous, David Bowie.
I think my mes préoccupations, quand j'étais plus jeune, étaient d'installer un univers parallèle à travers l'écriture, qui soit détaché du monde réel. J'écrivais plutôt des histoires fantasques quand j'étais jeune. En vieillissant, j'ai compris qu'à travers ces fantasmes, je me posais les mêmes questions qu'aujourd'hui, mais elles étaient masquées. Je ne réalisais pas que je me posais des questions. Pour moi, je ne faisais qu'écrire des fictions. Mais tout auteur écrit sur lui-même. Je regarde parfois sur des titres comme Ground Control, To Major Tom, et je commence à m'y voir. J'écrivais des textes qui concernaient mes problèmes intimes. J'écrivais sur moi, et ce délire du grand vide spatial était une manière d'exprimer ce que je ressentais à l'intérieur. Progressivement, vous comprenez qui vous êtes en tant qu'auteur. Il y a une continuité conceptuelle dans ce que je fais. Tout part du sentiment d'isolement. Il y a un certain nombre de sensations liées à l'abandon spirituel. Il y a toujours eu une recherche spirituelle dans mon travail, de toute façon. Thank you.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Éric Lénini, c'est Space Oddity, bien sûr, les auditeurs l'auront reconnu. C'est un hommage magnifique à David Bowie. C'est aussi la seule plage où on s'entend quasiment seul. Il y a un peu de la contrebasse de Thomas qui arrive. C'est très grave et c'est absolument bouleversant. Pourquoi Space Oddity? Pourquoi comme ça? Qu'est-ce que ça dit de vous, au fond? Parce qu'on entend David Bowie dire, voilà, si on écoute ma musique, on sait au fond qui je suis. Est-ce que là-dessus aussi, il y a quelque chose de plus grave chez vous?
Complètement. Il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est saudade, le terme brésilien, portugais. C'est une tristesse joyeuse. Dans la vie privée, je suis quelqu'un de très drôle, je pense. Mais j'ai aussi cette... ça fait partie de ma personnalité. J'ai une tristesse qui n'est pas dépressive, mais voilà. Et c'est ma manière de la traduire dans la musique. J'ai choisi cette chanson parce que c'est pour moi une des grandes chansons de David Bowie. C'est toujours d'ailleurs très émouvant d'écouter ses mentors parler, d'avoir cette précision et cette comme la perception qu'ils ont de leur musique et des choix musicaux qu'ils font. Je parlais des différentes guitares tout à l'heure. C'est un morceau qui est arrangé, qui est extrêmement guitaristique, qui est très arrangé. Il y a de la guitare partout et très rock. Et je pense que ça fait aussi partie de ma personnalité, c'est d'aimer le contre-pied, d'aimer de se dire tiens, il y a énormément de guitares. Du coup, pourquoi pas faire le même morceau sans guitare? Et du coup, chercher, essayer de nouveau s'approprier une version en allant vers le minimalisme, du coup. Et voilà, cet ostinato de main gauche harmonique et essayer de trouver la bonne manière, en tout cas pour moi, de jouer cette mélodie. La mélodie est très très précise. Elle colle quasiment, j'ai envie de dire mot à mot, à la version de David Bowie. Et puis voilà, presque pas d'improvisation. C'était mon choix. En écoutant l'extrait, ça m'a fait penser. Je suis allé voir l'exposition sur Lautrec.
Et magnifique,
qui est
exposition.
Magnifique.
Nous
qui
en
est vraiment,
parlerons dans 15 jours ici.
Qui est vraiment extraordinaire. Et je me retrouve, en tout cas dans mon parcours, je sens Lautrec qui a son écolage avec chez Degas, etc., qui sympathise avec Van Gogh. Et puis, je ne sais pas s'ils sont croisés, mais on voit dans certaines figures, dans certains tableaux, Modigliani, et c'est ce côté contemporain, ces influences qu'ils ont peut-être sans s'en rendre compte. Je trouve que la musique, c'est vraiment ça. Le fait de puiser son inspiration dans la tradition, et puis. Comme Bowie disait, c'est le monde. Il lui parle le monde parallèle, mais aussi, ils cherchent tous une authenticité, une manière unique de pouvoir s'exprimer. Et je pense que c'est la recherche qui crée cet état et d'avoir la chance de pouvoir enregistrer quelque chose que vous entendez.
Alors, Éric Lénini, vous nous rappeliez tout à l'heure que vous aviez travaillé, bien sûr, avec Claude Nougaro. Vos trois précédents albums étaient consacrés aussi à la voix, donc on sait bien, et vous êtes accompagnateur, donc la voix, le chanteur, la voix de la chanteuse ont une grande importance pour vous. Et en fait, la question que j'avais envie de vous poser, c'est sur toutes ces plages instrumentales, est-ce que, quand vous les avez composées, il y avait dans votre tête des paroles? Est-ce que ces paroles-là, on les entend dans la musique, même si elles ne sont pas prononcées?
Dans certaines chansons instrumentales, je pense, en tout cas, pas spécialement à des paroles, mais à une histoire, ça c'est sûr. Une histoire que je pourrais raconter, que je pourrais mettre évidemment en parole, donc du coup vraiment faire une chanson, mais c'est pas le but. Par exemple, La Manguera, pour moi, c'est un morceau que j'ai écrit et construit sur juste une sensation. Je me suis rappelé d'un moment que j'ai vécu à Rio, dans les années 90, où j'accompagnais Marcia Maria, qui m'a emmené à la Mangueira, qui est l'école de samba de Jobim. Jobim, qui est un compositeur incontournable et une grande influence musicale en ce qui me concerne. Et c'est le moment où on arrive dans cette école de samba où il y a peut-être une vingtaine de personnes. Et en un quart d'heure, il y a 1000 personnes dans un hangar. Et c'est vraiment c'est la fièvre. C'est un moment pour moi absolument incroyable où il y a un appel de la petite guitare du cavaquinho. Et puis vous avez une centaine de percussionnistes qui rentrent. Et voilà, c'est un moment, c'est une perception, c'est une sensation ça ne m'a jamais quitté. Et puis il faut trouver le bon moment et la manière de traduire. Mais c'est une histoire, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et cette mélodie que j'ai écrite, en tout cas le refrain de la Mangueira, c'est ça pour moi.
Eh bien d'ailleurs, c'est sur ce titre de la Mangueira que nous allons nous dire au revoir à regret, Eric Lénigny. Je rappelle que votre dernier album Six Strings Under est en vente et que vous êtes en tournée dans toute la France pour les Parisiens. 3 dates à ne pas manquer, 19, 20 et 21 décembre, c'est au Duc des Lombards. Merci à vous Eric Lénigny,
merci à vous.
Bonne tournée.
Merci.
Nous nous retrouverons la semaine prochaine aux environs de 19h20 et bien sûr après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Xavier Le Herpeur pour une heure en série. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter.